Ce matin, j'aimerais commencer avec une citation d'un célèbre philosophe grec. Et imaginez-vous, c'est un philosophe, quand on dit philosophe grec, on pense tout de suite à l'Antiquité. Et nous sommes exactement, 5e siècle avant que Jésus-Christ n'arrive. Et ce philosophe grec, il nous dit, nous sommes, écoutez bien, je ne sais pas si vous l'avez, nous sommes deux fois armés si nous combattons avec la foi. Nous sommes deux fois armés si nous combattons avec la foi. Vous imaginez que celui qui ne connaît pas l'évangile, Platon, avait compris qu'un homme qui combat avec confiance possède comme une force supplémentaire. Mais la Bible dit les choses telles qu'elles sont. Notre véritable victoire ne vient pas de notre courage, elle ne vient pas de notre force intérieure, mais de notre dépendance à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et dans Marc chapitre 9, parce que c'est le texte de méditation que nous aurons ici, où Jésus descend de la montagne après avoir vécu avec trois de ses disciples la transfiguration, et puis il descend et il va rencontrer une foule agitée, avec des disciples qui, semblerait-il, sont impuissants. Il y a un père qui est désespéré ici et un enfant qui est détruit. Et au cœur de ce chaos, Jésus va révéler cette vérité. Sans lui, nous sommes faibles. Avec lui, la victoire devient possible. Amen. Alors, lisons ensemble dans Marc chapitre 9, versets 14 à 29. Nous allons prendre le temps de méditer ce passage ensemble ce matin. Alors gardez vos Bibles ouvertes alors que nous allons parcourir ce texte en ce matin. Je n'ai pas la prétention, loin de là, de dire tout ce qui concerne ce texte, mais juste ce que j'ai reçu du Seigneur en ce matin. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, vous avez le texte, c'est bon? Vous avez trouvé? Yvon Bazotte? Oui? Ok. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Il leur demandait, mais sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelques lieux qu'il le saisisse, il le jeta par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence, il tomba par terre et il se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Et Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des grands cris et en agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, les disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser l'esprit ?» Et il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne, dans bien d'autres versions. » Seigneur, accorde-nous ta grâce d'entendre ta parole. Et comme tu le dis, comme l'apôtre Paul le dit, illumine les yeux de nos cœurs. Et que nous puissions sortir ici différemment de la manière dont nous sommes entrés, saisis par ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Jésus sort de la montagne, on l'a dit à l'instant, n'est-ce pas? Et il s'arrête devant ce Père qui est épuisé. Ce Père qui est brisé. Ce Père qui est au bout de ses forces et il pose une question alors qu'il y a la foule, alors qu'il y a les scribes qui sont là. Et dans cette question, on voit toute la sollicitude, toute l'attention que Jésus a. Depuis combien de temps, bien c'est 21, depuis combien de temps cela, lui, arrive-t-il? En fait, Jésus sait déjà de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Mais il veut entendre l'histoire. Il veut que cet homme puisse oser mettre des mots sur sa souffrance. Comme s'il disait, mais quel est ton parcours? Quel est ton parcours avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment en es-tu arrivé là? Comment vous en êtes-vous arrivé là? Et depuis combien de temps tu es en train de porter ce fardeau? Comment cela a pu être difficile pour toi? Il attend de l'homme qu'il puisse exprimer du fond de son cœur, mais toute sa souffrance, alors que Jésus sait de quoi il s'agit. Et cet homme qui porte ce combat depuis des années va répondre simplement en commençant cette phrase à part depuis son enfance. Depuis il tout petit, c'est comme ça il est. Depuis tout petit, c'est l'oppression. Depuis tout petit, c'est la souffrance. Depuis tout petit, c'est la destruction. David, en son temps, disait dans son psaume de repentance, « Voici, je suis né dans... » l'iniquité dans le péché, et ma mère m'a conçu dans le péché. Le psaume 51, le verset 7. Le point de départ du désordre dans ce monde, c'est le péché, chers frères et sœurs. Le point de départ des vies brisées, le point de départ des vies déchirées, le point de départ des dépendances, le point de départ des violences, des mensonges, de la jalousie, de l'orgueil, des conflits, c'est le péché. Et le point de départ du désordre dans ta vie, c'est le péché. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vois qu'il faudrait changer certaines choses dans ta vie. Mais tu ne sais plus comment faire, tu ne sais plus par quel bout prendre les choses. Et peut-être qu'il y a des choses que tu ne veux plus faire, mais que tu continues quand même à faire. Comme disait l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Je fais le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Dis-moi, je ne fais pas le mal, le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Romains chapitre 7, verset 19. Nés dans le péché, nos cœurs sont comme tu dirais, des terrains forts, fertiles, pour que malheureusement les semences du mal puissent porter, chers frères et sœurs, reconnaissons-le. Et tant qu'il n'y a pas une nouvelle naissance, tant qu'il n'y a pas l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie, tant qu'il n'y a pas, comment dire, même en tant que converti, tant que nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler régulièrement en nous, nous sommes comme des brebis perdues, chers frères et sœurs. Nous pas de chemin. Et puis nous pas ni moyen pour trouver un sens. C'est ça l'œuvre du péché. Mais souvent, extérieurement, tout est normal. Hein? N'est-ce pas? Et cela fait penser au fruit qui est troué. Le fruit qui est troué et cette télécommande qui ne fonctionne pas. Merci. Voilà. Le fruit qui est troué. Mais on va le voir. Ah, alors j'ai ma télécommande dans mon sac, mais c'est pas grave. Jessica va m'aider. Est-ce que vous avez déjà vu une pomme ou un fruit qui est troué, mais jusqu'au cœur? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Si vous n'avez pas vu, vous le voyez ici. Qui est-ce qui va accepter de manger ce fruit-là? Le père, dit Judica. Ah mais si tu caches ça, c'est bien joli, hein? Ou si tu vas dans l'autre sens, tout est magnifique, n'est-ce pas? Personne ne veut manger un fruit comme ça, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui est entré dedans. Et qu'en le mangeant, on va trouver ce qu'il y a dedans. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais en réalité, le problème ne vient pas de l'extérieur, chers. La pomme, comment dire, alors qu'elle était en formation, la larve s'est déposée à l'intérieur, peut-être à l'aide d'un insecte, n'est-ce pas? Et puis, la pomme a grandi autour du problème, qui est cette larve, qui elle-même aussi a grandi, n'est-ce pas? Et ensuite, le ver a grandi à l'intérieur jusqu'à ressortir en creusant son chemin vers l'extérieur. Or, la pomme est belle, n'est-ce pas? Brillante, elle semble saine, n'est-ce pas? Mais la contamination était déjà à l'intérieur. Et le péché agit exactement de la même manière, chers frères et sœurs. Ce que nous voyons extérieurement dans les vies détruites n'est souvent que le fruit visible du mal qui était déjà présent dans le cœur depuis bien longtemps. Et j'aimerais te dire que ce qui alourdit ta vie, ce qui empoisonne ta vie, ce qui bloque ta vie, ce n'est pas l'extérieur. Mais c'est quelque chose qui était déjà là. Il y a comme une contamination qui était déjà là. Et qui fait que le péché détruit, et qui fait que le péché assombrit, qui fait que le péché éloigne de Dieu et nous enchaîne. Et Satan utilise le péché avec un projet précis pour l'être humain, c'est-à-dire nous rendre esclaves. Vous savez, ma mère, face aux situations compliquées, notamment dans le monde du travail, elle disait « Yo, paquet, il va me mettre tout tout. » En gros, ils ne vont pas me rendre esclave. D'accord? C'est exactement le projet de Satan pour toi et pour moi. Jésus dira d'ailleurs que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et dans ce récit, le père explique que le démon va déchirer son fils, pratiquement l'agiter, le jeter dans le feu, mais à la fois dans l'eau. Vous voyez, il y a ces deux images du feu et de l'eau. Le rendre esclave en réalité. J'aimerais juste te dire quelques petites choses comme ça. C'est que dans ce texte, l'enfant est décrit comme sourd et aussi muet, avec des convulsions qui ressemblent aux symptômes qu'on pourrait dire aujourd'hui de l'épilepsie, n'est-ce pas? Et cela a suscité bon nombre de discussions et la question, est-ce que toute maladie est démoniaque? Et la Bible nous pousse ici à garder, une forme de discernement ici. Toute maladie n'est pas une possession démoniaque. Toute souffrance, même psychique, même neurologique, on pourrait dire même psychiatrique, n'est pas l'action directe d'un démon. Et ici, dans ce cas précis, Jésus identifie clairement l'action d'un esprit qui est impur. Et cela ne signifie pas que toutes les formes de surdité, d'épilepsie ou de troubles sont démoniaques. Si vous me dites que c'est la conséquence du péché, je vous dis oui, toute maladie est conséquence du péché. Mais s'il ne s'agit pas forcément d'un démon en tant que tel. Et il faut le dire avec clarté, parfois beaucoup de personnes qui souffrent avec des troubles psychiques, des troubles neurologiques ou même des troubles physiques ont été profondément blessés par d'autres chrétiens, bien intentionnés, mais mal avisés, qui ont voulu...
Alors qu'il fallait surtout prier, alors qu'il fallait surtout être à côté d'eux pour soutenir, pour éclairer et pour éclairer du chemin de l'Évangile. Amen. Et parfois aussi orienté par des soins adaptés, parce que la grâce commune fait que Dieu a donné l'intelligence aussi aux médecins. Intelligence limitée, oui, mais intelligence quand même. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu qui s'exprime. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons être à côté d'eux et soutenir et aider. En tout cas, ici, Jésus ne banalise ni le spirituel ni la souffrance humaine. Mais il va et il essaye de capter et de saisir. Et les chrétiens ont besoin, nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de compassion, nous avons besoin de prière. Et dans ce passage précis, Marc veut surtout nous montrer la puissance qui malheureusement, la puissance du mal, la puissance destructrice du mal et la question de la domination du péché et combien ça peut détruire des vies, chers frères et sœurs. Et cet enfant qui est là, il est totalement captif, il est totalement esclave et il n'a aucune force pour résister à ceux qui dominent sur lui. Et c'est ce que fait le péché sur nos vies. Finit par posséder nos pensées, posséder nos habitudes, posséder notre façon de vivre, nos paroles, même nos désirs et nos réactions. Et tu ne sais même plus comment sortir de ce que tu vis. Parce que le péché domine encore sur toi. Et il y a des choses dans ta vie qui gouvernent ton cœur plus que Dieu. Il y a des chaînes que tu caches derrière une belle apparence. N'est-ce pas? Une belle sukutunen ou pakawa rien. Il y a des choses que tu caches. Car derrière les sourires, derrière les habitudes religieuses, derrière les apparences, beaucoup vivent intérieurement. Ils sont liés, ils sont fatigués, ils sont captifs, ils sont perdus. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile commence ici. Jésus ne détourne pas les yeux de cet enfant. Et je ne sais pas si vous avez observé, mais dans le début du texte, il y a comme une discussion, il y a comme un foulard qui a discuté, puis les disciples, peut-être les neuf qui étaient restés, n'est-ce pas? Et il y a une grande discussion, peut-être qu'ils parlaient de la situation. Hein? Mais Jésus arrive et il a les yeux fixés sur cet enfant. Et Jésus écoute ce père. Et Jésus rentre dans cette souffrance. Alléluia! Et ce que le péché a lié pendant des années, je te dis que Jésus a le pouvoir de délivrer. Comme pour cet enfant, il a le pouvoir de te délivrer. Alléluia. Alors oui, c'est vrai, nous affrontons un ennemi qui est bien réel, qui utilise le péché pour nous rendre esclaves, pour nous enchaîner. Mais Jésus a le pouvoir de nous délivrer. Alléluia. Amen. Alors en lisant ce texte, on apprend que ce père, complètement déboussolé, il avait déjà fait une première démarche au verset 18. Il l'exprime. Il est allé vers les disciples qui étaient reconnus comme ceux de Jésus. Parce que Jésus n'était pas là, il était sur la montagne avec trois de ses disciples à ce moment-là. Et Jésus donc était avec Pierre, il était avec Jacques, il était avec Jean. Et ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire à travers la transfiguration. On le voit dans Marc, chapitre 9, verset 4. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le Père s'est tourné vers ceux qui représentaient Jésus. Est-ce qu'il s'agissait des neuf autres disciples restés en bas, peut-être? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'on sait que Jésus leur avait donné l'autorité sur les esprits impurs. Et ils étaient donc logiquement en capacité de pouvoir agir et aider cet homme et son fils. Ou bien, on pourrait dire que s'il s'agissait peut-être d'autres disciples qui suivaient Jésus, mais sans faire partie des douze. Nous ne savons pas exactement. Mais, et selon notre lecture, peut-être qu'on penche pour l'un ou pour l'autre. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont échoué. Ils ont fait chou blanc. En créole, nous avons dit « yokaye ». Ils étaient incapables de répondre à ce besoin urgent. Et c'est peut-être ça, ils étaient capables. Léa, les Jésus rivés, exactement, et puis Foula, et puis Scribla, verset 14. Et on peut imaginer toute la douleur de ce père. Il souffre à cause de son fils et l'espoir qu'il avait placé dans ses disciples, ben tout ça, ça s'effondre parce qu'il n'a pas vu le fruit. Imaginez l'état d'esprit du père. On lui a parlé d'un Jésus, on lui a parlé des disciples de Jésus, et il va vers les disciples et ça ne marche pas. Alors Jésus arrive et prononce cette parole forte et qui a de quoi choquer peut-être, parole agréable que nous aurions tous aimé entendre au verset 19, ou peut-être pas d'ailleurs. Gens incrédules, race incrédule, jusqu'à quand? Ah. Jésus parle bien ici à ses disciples et certainement à la foule qui le suit parce que foule là, depuis qu'il t'étonne de parler de Jésus, yola, n'est-ce pas? Mais la question, mais attends, ce sont tes disciples et c'est la foule qui te suit. La foule qui te suit, ils ne sont pas dans la même position que les scribes. Eux, ils croient et qui plus est, les disciples. Et pourquoi tu les appelles incrédules? Pourquoi tu les appelles incrédules? J'aimerais te dire, sais-tu que tu peux venir à l'église et être un parfait athée? Tu peux venir à l'église et être athée. Il est possible de suivre Jésus extérieurement sans réellement dépendre de lui intérieurement. Il est possible d'être chrétien de nom tout en vivant pratiquement comme si Dieu n'intervenait pas réellement dans ta vie. Et c'est ce qu'on appelle un athéisme pratique. C'est-à-dire que sur papier, tu es chrétien, peut-être même tu es évangélique, et tu viens à l'église tous les dimanches, voire même tu sers le Seigneur. Mais sur le plan concret, du lundi au samedi, tu es athée. Parce que tu ne fais pas confiance à Dieu sur toutes les réalités de ta vie et sur tous les combats que tu as affrontés sur ta vie. Dire que Dieu existe, mais vivre comme si tout dépendait de nos propres forces. On peut chanter, on peut prier, on peut venir à l'église, servir et connaître même des versets et pourtant manquer de confiance réelle dans la puissance de Dieu. Et c'est probablement ça le problème de ces disciples ici. Ils avaient reçu une autorité, mais ils avaient oublié leur dépendance à Dieu, leur dépendance au Saint-Esprit, on peut déjà le dire, je crois. Ils avaient peut-être l'habitude du ministère, des miracles, des foules, mais face à des cas difficiles, il semblerait que leur faiblesse apparaisse brutalement. Parce que chemin faisant, en faisant beaucoup de choses pour le Seigneur et en voyant des fruits, finalement, nous avons commencé à croire que c'est nous qui avons fait. Est-ce que ce n'est pas vrai? Et Jésus, de la façon la plus radicale, mais certainement avec beaucoup de compassion, mais d'amour, mais Ikadou bagay la konye, Ikadou, race d'incrédule. Il leur dit leurs quatre vérités. Et quand le Père dit à Jésus, si tu peux, parce qu'il y a la part des disciples, mais il semble qu'il y a la part du Père aussi, hein. Et quand le Père dit à Jésus, mais si tu peux faire quelque chose, et il déclare un peu, si tu peux faire quelque chose, et il ouvre son cœur en quelque part, il se dit, ah, mais je vois Jésus, aie pitié de nous, viens à notre aide. Et Jésus répond immédiatement par cette phrase, si tu peux, comme pour dire, là n'est pas la question. La question n'est pas savoir si Jésus peut. La vraie question, c'est est-ce que toi, tu crois? Bien sûr que Jésus peut aider cet enfant. Là n'est pas la question. Le problème n'est jamais un manque de puissance de Jésus. Le problème se trouve dans la difficulté de nous, de lui faire pleinement confiance. Le problème n'est pas un problème de puissance. Le problème est un problème de confiance. Ce n'est pas un manque de puissance. Et Jésus, ici, va exiger la foi. Et il n'exige pas une foi qui est magique. Il n'exige pas une foi qui est parfaite non plus. Mais il veut une confiance réelle en sa personne et en sa puissance. Un abandon total. Et après avoir pointé l'incrédulité des disciples, ici, Jésus met en avant celle du Père. Aïe, aïe, aïe. Et on pourrait dire celle de l'Église aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais remarquez bien que Jésus ne le fait pas, il ne le fait pas pour écraser qui que ce soit. Ce n'est pas l'attitude de Jésus, ce n'est pas sa sensibilité. Il cherche avant tout à développer la foi de ce Père. Et Jésus met parfois en quelque part en lumière nos faiblesses, nos difficultés face à une épreuve, face à un combat, face à une opposition, face à quelque chose, en quelque part où on dit, mais Seigneur, si tu peux, fais quelque chose. Et Jésus dit, si je peux. Là n'est pas la question, vous l'avez compris. La question, c'est notre confiance. La question, c'est notre abandon à lui. Et peut-être que présentement, tu es dans une situation où le Seigneur te montre précisément où tu peines à lui faire confiance, peut-être pour ton fils, peut-être pour ta fille, peut-être pour ton couple, peut-être pour une situation de travail, peut-être pour quelque chose que tu veux arrêter de faire, mais tu n'y arrives pas. Et ici, dans ce dialogue entre Jésus et le Père, il y a quelque chose de bouleversant qui est en train de s'opérer. Parce qu'on regarde tout de suite, quand il dit « si tu peux, tout est possible à celui qui croit », verset 24, eh bien, le Père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier. Une autre manière de dire qu'il pleure, une autre manière de dire qu'il reconnaît qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il comprend qu'il est un incapable et il se sent profondément blessé d'être vu comme quelqu'un qui manque de foi, alors qu'il souffre déjà tellement à cause de son fils. Mais Jésus ne repousse jamais un cœur brisé. Alors cet homme prononce l'une des plus belles prières de toute la Bible. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité » verset 24. « Viens au secours de notre incrédulité. » On peut passer la diapo. Quelle honnêteté. Est-ce qu'on peut dire ça au Seigneur ce matin? « Viens au secours de mon incrédulité. » une manière de dire, mais Seigneur, je veux croire, mais je reconnais qu'il y a comme des limites à l'intérieur de moi. Ma foi est faible. Aide-moi là où je me sens incapable. Et la véritable foi en Christ, elle est là. Ce n'est pas prétendre être fort. La foi consiste à reconnaître nos faiblesses et à s'appuyer sur Jésus. Parce que la puissance n'est pas en nous. La capacité de sauver, la capacité de transformer, la capacité de délivrer, la capacité de relever n'est pas dans nos ressources humaines. Mais elle est en Dieu, parce que nous sommes, nous, limités. Et peut-être que la foi commence là, quand on reconnaît toutes nos limites et qu'on a besoin de dire au Seigneur, je n'y arrive pas, c'est au-delà de mes forces, mais viens au secours de mon incrédulité devant ce que je suis en train d'affronter là. Et c'est justement dans notre faiblesse que nous apprenons à dépendre de Dieu. Et parfois même que le Seigneur nous oriente dans des temps de faiblesse, dans des temps d'épreuve, pour nous apprendre à dépendre de lui. L'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et c'est là tout le paradoxe de l'Évangile. Dieu agit puissamment chez ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Dieu veut agir puissamment tous ceux qui reconnaissent leurs limites. J'ai une question à te poser. Quand tu es rentré ici, ce dimanche, ce matin, est-ce que tu as analysé le banc avant de t'asseoir? Est-ce qu'avant de s'asseoir, tu t'es dit, wow, est-ce qu'il est assez résistant? Est-ce que tu as calculé toute sa solidité? Qui monde qui a fait ça? Personne n'a pas fait ça. Parce que vous avez tout simplement choisi de faire confiance au banc et vous êtes dit, mais à aucun moment je vais me retrouver à terre. Ce qui n'est pas le cas de mon frère tout à l'heure, mais enfin, il y avait une chaise qui n'était pas très solide. Mais il a eu la foi, il s'est assis quand même. Grâce à Dieu, j'étais derrière. Ah, mais tout ça pour te dire que tu manifestes une foi avant de t'asseoir. N'est-ce pas? Tu exprimes une foi avant de t'asseoir et tu ne te poses même pas la question. Et la foi fonctionne de la même manière. Et mon frère s'est assis sans se poser la question. Mais visiblement, il s'est assis, s'est déposé sur quelque chose qui n'était pas solide. Mais quand tu le fais ici le dimanche matin, tu sais que c'est du solide et que ça va s'accrocher. Tu vas pouvoir tenir. La foi ne dépose pas sur un simple sentiment, chers frères et sœurs. La foi, c'est s'appuyer sur réellement ce qui est sûr. Alors oui, tu peux dire, je crois que ce banc peut me porter. Ça, c'est facile pour toi de le dire. Mais si tu te retrouves à rester debout pendant tout le culte et que tu te refuses de t'asseoir parce que, tu n'as pas confiance au banc, tu vas manifester aucune confiance réelle. Mais la question, vous savez, la foi, c'est s'appuyer sur les vérités de Dieu. La foi, c'est tu pars du principe que ce que Dieu dit est vrai. Et comme ce que Dieu dit est vrai, tu fonctionnes en fonction de ça. Tu t'assois sur le banc parce que tu crois profondément que le banc, il est solide. Et aujourd'hui encore, Jésus nous appelle à ce type de dépendance. Peut-être qu'aujourd'hui, tu réalises que toi aussi, tu as tes limites. Peut-être qu'il y a certains combats qui sont en train de t'écraser. Peut-être que tu essayes depuis longtemps de t'en sortir. Peut-être que tu portes encore des blessures, des chaînes, des peurs et des échecs. Alors écoute bien cela. Ta faiblesse n'est pas un obstacle pour Jésus. Le fait que tu ne te sentes pas à la hauteur n'est pas un obstacle pour Jésus. Mais elle peut devenir l'endroit où la grâce du Seigneur vient te rechercher et commence à agir en toi. Alléluia. Ta faiblesse peut être, l'objet de plaintes, l'objet d'un mal-être, l'objet de maladies psychosomatiques, l'objet même de maladies psychiques, parce que tu es en train de te poser la question et que tu es en train de dire « mais je ne peux pas, mais je ne suis pas capable » et ta faiblesse peut t'environner tellement que ça te bloque. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas un obstacle pour Jésus, parce que précisément dans ta faiblesse, Jésus veut venir te rejoindre et veut commencer à agir dans le nom de Jésus. Alléluia! Parce que tant que nous croyons être forts, nous nous appuyons sur nous-mêmes. Mais lorsque nous reconnaissons, Seigneur, je suis incapable, et c'est exactement ce que cet homme fait là, Seigneur, je suis incapable, c'est là où on ouvre la porte de la puissance du Seigneur sur nos vies. Alors, crois-tu que le banc est suffisamment solide pour te porter? Crois-tu que Jésus est suffisamment puissant pour te porter, pour t'aider et pour régler tes problèmes? Alléluia! Alors oui, tu es certainement sans force et avec faiblesse, mais Jésus a déjà engagé et a déjà gagné la victoire pour toi. Amen. 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 Alors maintenant, nous arrivons à un moment décisif du texte, au verset 25. Jésus donc a accueilli ce père. Écoutez, il sentit douleur. Il a montré avec compassion les manques des disciples et même la fragilité de la foi du Père, nous venons de le voir. Mais maintenant, Jésus va affronter la situation. Et on peut observer une chose magnifique, Jésus n'a aucun problème d'ego. Il pas qu'à chercher faire moun way. Il ne cherche pas à impressionner, il ne cherche pas à faire du spectacle, il ne cherche pas à utiliser la souffrance de cet homme pour attirer les foules. Au verset 25, Pierre, alors comprenez, hein, pour ceux qui ont fait Insta, vous savez très bien que quand Pierre parle, il cap aller en bouche Pierre. Hein? Il s'agit de l'apôtre Pierre, n'est-ce pas? Parce que Marc en lui-même n'était pas là, mais il était le disciple de Pierre, ok? Je ne refais pas tout ça, mais juste pour dire, voilà. Et donc ici, Marc nous montre bien qu'il ne veut pas agir avant qu'une foule ne se rassemble. Il a fait vitement presser parce que cette famille avait probablement été déjà mise en spectacle bien des années auparavant. Vous imaginez l'enfant qui tombe au sol, qui écume, qui crie, et ça crie publiquement, et tous les regards, et toutes les moqueries, et tous les jugements, et toutes les peurs, n'est-ce pas? Mais Jésus refuse d'utiliser la douleur comme un spectacle religieux. Et il ne cherche pas à humilier publiquement ceux qui sont déjà brisés. Ça, c'est le cœur même de notre Seigneur. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à ne pas mettre en spectacle les autres, mais toujours avoir une dimension de compassion à leur égard. Alors Jésus va reprendre ce démon, toujours verset 25. Et le mot reprendre ici est fort, c'est epitimao. Epitimao, l'aoriste ici, il contient à la fois l'idée de réprimander, mais l'idée aussi de commander avec autorité. Et Jésus reproche à cet esprit d'avoir tourmenté cet enfant. Et puis il ordonne de sortir. Maintenant c'est fini. Ce qui détruisait cet enfant depuis l'enfance doit maintenant partir. Et pendant des années, il avait vu son fils être détruit, mais maintenant Jésus déclare « c'est terminé ». Et quand Jésus délivre, il délivre réellement. Il peut briser tes chaînes. Il peut pardonner tes péchés. Il peut restaurer ta vie. Il peut relever ton cœur qui est fatigué et il te donner une liberté nouvelle. Et rappelez-vous comment tout ça a commencé. C'est qu'il y a eu un problème, mais à un moment donné, Jésus dit « Emmène-le-moi », c'est ça ?« Emmène-le-moi ». Emmenez-moi l'enfant. Et j'aimerais te dire que Jésus te dit, emmène-toi aussi. Quand tu réponds à l'invitation de Jésus, tu découvres sa parole. Sa parole qui est pleine de puissance. Jésus peut te séparer de ce qui te détruit. Il peut te donner la victoire sur tes ennemis spirituels. Et j'aimerais te dire que ici, il ne s'agit pas de prendre sa tête, de réfléchir, mais il s'agit de dire simplement « Oui, Seigneur ». Mais pendant ça qui a fait là, et puis yoka, ouais, délivrance à Jésus, qui ça qui a fait? Il n'y a ça qui a catilé. Il n'y a ça qui a réfléchi. Qui est-ce qui a réfléchi là? Hein? Le verset 28. Les disciples viennent voir Jésus en privé. Il dit, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et Jésus répond, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et dans d'autres versions, le jeûne. Certains manuscrits ajoutent, en fait, pas tous les manuscrits qui ont l'aspect du jeûne, mais certains l'ajoutent, et probablement que c'est un ajout tardif. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails ici. En tout cas, ce que je veux dire ici, c'est que Jésus n'est pas en train de donner une formule magique. Parce que parfois, ce verset a été mal compris. Certains pensent qu'il suffirait de prier fort, plus longtemps, d'une certaine manière, pour produire de façon automatique un miracle. Ce n'est pas le sens du texte. Le problème des disciples n'était pas un manque de technique spirituelle. Le problème des disciples était leur indépendance. Puis au café chiméen, et puis, les mois et les années de contact avec Jésus, puis au café, peut-être vini, tibouin, qui m'en a dit ça en créole? Blasé. Et parfois, nous sommes avec le Seigneur et nous sommes un peu blasé. C'est vous qui l'avez dit. Hein? Et donc, il faut une technique, il faut quelque chose, il faut... Non, c'est pas ça. C'est la communion, c'est la dépendance, c'est l'intimité. Parce que Jésus leur avait donné l'autorité, mais ils avaient oublié que cette autorité ne fonctionnait pas de façon indépendante de Dieu. Et peut-être qu'ils comptaient de façon sur leur expérience passée, sur ce qu'ils ont vécu, sur leur position même de disciple, sur leur habitude de ministère. Mais rappelez-vous, on peut venir à l'église et être un athée. Dieu le dimanche, oui. Dans les habitudes spirituelles, oui. La prière, le chanter, le servir, oui. Mais après, au travail, à la maison et face à nos difficultés, très peu de Dieu. Voire pas du tout. Ou simplement de façon décorative, parce qu'il faut bien prier avant de manger. Mais réellement, quand les difficultés sont là, mais est-ce que Dieu est au centre? Est-ce que Dieu est au cœur? Et les disciples avaient certainement oublié que la puissance ne venait pas d'eux. Elle venait toujours de Dieu. Tout ça pour dire que quand tu sens que tu vois Dieu agir et puis tu n'as pas beaucoup d'efforts, c'est la grâce de Dieu qui s'exprime. Mais quand tu sens que c'est un peu plus compliqué, la grâce de Dieu est toujours là et tu as besoin d'entrer dans cette grâce-là. Alléluia! Parce que quand on voit la main de Dieu à l'œuvre à travers nous, il est facile d'oublier que sa puissance ne vient pas de nous, je le répète. La Bible dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez... » Tout ça pour dire que la prière est bien plus qu'une activité religieuse. La prière ne cesse de répéter, d'exprimer de façon continuelle notre dépendance à Dieu. La prière, c'est reconnaître, Seigneur, sans toi, je suis incapable. Et le jeûne qui est rajouté dans certains manuscrits ici, veut dire ici que c'est dans un bon état d'esprit qu'on va exprimer notre dépendance parce qu'on va s'extraire de la vie quotidienne et notamment de la nourriture, comme pour dire, Seigneur, en réalité, je dépends de toi et tu es ma seule nourriture. Véritable. Le jeûne n'est pas une manière d'impressionner Dieu ou les hommes, mais Jésus, a toujours voulu aussi condamner le jeûne utilisé pour paraître spirituellement. Je ne sais pas si vous l'observez dans les évangiles. Comme pour dire, attention, si on jeûne, jeûnons bien. Ne le faisons pas pour être vu et des autres. Et quand je dis le jeûne, mais je parle de toute notre vie spirituelle en réalité, de toute notre vie chrétienne. Est-ce que nous faisons pour être vus ou est-ce que nous cherchons sans cesse à être dépendants de Dieu? Et le vrai jeûne rappelle aux croyants que Dieu est plus nécessaire que le pain quotidien. J'aimerais utiliser une image avec vous, troisième image. Parce qu'en réalité, il est question ici de dépendance, il est question ici de communion avec le Seigneur. Et tout le monde sait, et tout à l'heure, nous allons rentrer chez vous, et très peu de personnes ici sont à pied, et tout le monde sait ce qui se trouve sous le capot d'une voiture, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'ouvrir le capot. Même là où vous achetez en loto, vous ne pouvez pas regarder s'il n'y a un moteur à dingue. Hein? Même quand la voiture est arrêtée, toutes nos voitures sont... Nous savons qu'il y a une puissance invisible qui est sous le capot, n'est-ce pas? Et cette puissance invisible, c'est tout simplement le moteur, et personne n'aurait l'idée ici de pousser une voiture qui fonctionne pour la faire monter un morne. Pourquoi pousser quelque chose qui a déjà la puissance nécessaire pour avancer? Et on comprend ça de façon très naturelle, très naturelle. Nous montons dans la voiture et nous laissons avec foi et confiance le moteur faire son travail. Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, spirituellement, beaucoup de croyants vivent pourtant en poussant la vie chrétienne avec leurs propres forces. Et ils s'épuisent, et ils forcent, et ils luttent seuls, comme s'il n'y avait pas le moteur invisible qui s'appelle Jésus, le Saint-Esprit. Alors que Dieu a déjà donné aux croyants la présence du Saint-Esprit, une présence qui a expérimenté, dans la foi, qu'il nous faut expérimenter dans la foi, dans la communion avec Dieu, dans la prière, dans le jeûne. Et tout ça pour dire que le Saint-Esprit n'est pas simplement une présence qui va nous fortifier le dimanche matin ou peut-être à un moment comme ça, épisodique, mais le Saint-Esprit est une personne capable de nous fortifier continuellement, de nous conduire continuellement et de nous faire avancer. Nous caille mon témoin, et puis grâce bon Dieu. Alléluia. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, nous dit l'apôtre Paul dans Romains le chapitre 8. Et donc la victoire chrétienne, ce n'est pas notre force, mais c'est la puissance de Jésus qui agit dans nos faiblesses. Et rappelez-vous l'invitation que Jésus fait dans ce texte. Il dit « Amenez-le-moi ». Et j'aimerais te dire « Amen ». Jésus est en train de te dire en ce matin « Amène-moi ton combat ». Amène-moi tes chaînes, amène-moi tes luttes, amène-moi ton problème, amène-moi ta douleur, amène-moi ton angoisse, amène-moi tes peurs, amène-moi tes doutes, amène-moi ce qui n'arrive plus, que tu n'arrives plus à porter seul. Car là où nous sommes incapables, Jésus demeure, lui, pleinement capable. Et ici, il y a l'image à la fin du texte, vous voyez, d'être pris par la main, n'est-ce pas? Et il prend par la main cet enfant et il le fait lever. Une image extraordinaire. Une image de douceur, une image paternelle, une image d'attention particulière. Et j'aimerais te dire que Jésus veut prendre par la main ton problème, ton combat, tes chaînes, tes luttes. Et il veut les faire lever pour les transformer. Alléluia. Alors j'aimerais te dire, pour pouvoir finir ce temps de prédication de la parole de Dieu, j'aimerais te dire que ton miracle ne dépend pas de la quantité, ni de la qualité ou de la force de ta foi. Ce que tu attends ou même ce que tu espères depuis des années ne dépend pas de ta force ni de tout ce que tu pourrais déployer. D'ailleurs, ça fait trop longtemps que tout cela, ça t'épuise. Mais la transformation que tu attends dépend simplement d'une foi suffisante pour être réellement connecté à Jésus dans une intimité, dans une communion, dans une tendresse avec lui, dans une quiétude, dans une paix, dans sa présence, dans son amour. Et certainement pour pouvoir comprendre progressivement le plan qu'il a pour toi. Et ça, c'est le principe de la foi comme un grain de sénévé. La Bible dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. La Bible dit aussi, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez aussi qu'au nord, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Et là encore, Jésus ne souligne pas une quantité de foi, mais une intimité particulière, une foi vivante, une foi réelle, une foi simple, une foi qui sait dire « Je sais, ça dépasse mes capacités, Seigneur, viens au secours de ma foi. » Et même petite, une foi qui est vraie, une foi qui est authentique peut devenir un instrument puissant par lequel Dieu veut agir et il veut agir dans l'impossible. Alors ce matin, j'aimerais simplement que l'on puisse prendre juste un temps de prière, un temps devant la face de Dieu. Peut-être qu'on peut rechanter ce chant « Mon seul abri, c'est toi » avec le groupe de louanges. Et peut-être que certains ce matin veulent se faire un renouvellement avec le Seigneur. Certains ce matin veulent se laisser saisir à nouveau avec le Seigneur. Oui, nous affrontons un ennemi qui est réel. Oui, c'est vrai que lorsque nous affrontons cet ennemi réel, tout cela veut nous rendre esclaves de nos problèmes, ça les rend nous toutous. Et peut-être que tu te sens sans force, sans Jésus, mais il veut intervenir et il veut venir au secours de ton incrédulité parce que tu as déjà la victoire en lui. Voilà le simple encouragement que je veux te donner en ce matin. Et je crois que la parole de Dieu telle qu'elle est, elle est puissante et que bien d'entre nous peuvent se retrouver dans la situation de ce Père et peut-être entendre les paroles de Jésus avec une forme de rudesse, une forme de dureté, mais en même temps tout l'amour, toute la compassion de Dieu veut nous relever en ce matin, veut nous donner la force dont nous avons besoin et nous voulons le proclamer et nous voulons le dire, son seul abri c'est lui. Allez, notre seul abri c'est lui. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons écouter ce chant et si certains ont besoin de la prière en ce matin, vous pouvez simplement venir et nous voulons le faire en toute compassion, en toute simplicité, en tout amour. Tu peux venir ici, tu peux rester à ta place, tu peux venir nous voir après, qu'importe. Mais en tout cas, saisis ce que le Seigneur a prévu pour toi en ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia.